Bonjour. Donc, on va commencer par présenter OpenPGP, parce qu'en fait, c'est un peu la OpenIDC se base à fond sur cette techno, et elle est hélas pas très utilisée, pas très maîtrisée. Il y a pas mal de gens qui ont fait des certificats, mais qui ne s'en servent jamais. Rien que dans cette salle, quasiment tout le monde. Alors qu'on voit avec l'affaire Prism, etc., c'est la solution pour à la fois s'authentifier de façon décentralisée et avoir protégé sa vie privée en chiffrant des messages, en chiffrant tout et n'importe quoi, et signer des messages de façon unique. Donc en fait, c'est la solution qui a sauté à nos yeux quand dans OpenIDC. On a dû résoudre le problème d'authentifier les individus, puisque si on veut appliquer le dividende universel sans que, tout en étant décentralisé, c'est quand même un mot très important, décentralisé pour éviter que concentration de pouvoir. Et il fallait donc authentifier les individus humains de façon unique, éviter les multicomptes, etc. Et OpenPGP, quelque part, apporte cette solution grâce à sa toile de confiance. Bon, je ne vais pas m'attarder sur l'historique d'OpenPGP. Bon, ça a commencé en 1991 avec un Américain qui pour l'histoire, a eu des petits problèmes ensuite à l'époque avec la justice américaine, parce qu'à l'époque encore, l'ancêtre de la NSA, quoi, en gros, les militaires américains se réserver le droit de décrypter tous les messages. Donc le civil n'avait pas le droit d'utiliser des méthodes de cryptographie trop fortes. Voilà. Or, en inventant PGP, il utilisait déjà le RSA. Non, peut-être pas le RSA, je ne sais plus. Enfin, il utilisait déjà des méthodes de cryptographie trop fortes. Et donc les militaires américains l'ont intenté un procès. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'à l'époque, celui qui l'a défendu n'est autre qu'Eben Mouglen, actuel président de la FSF. Voilà, numéro 1 de la FSF. C'est un avocat, et à l'époque, c'est lui qui a défendu Philippe Zimmermann. Voilà. Ensuite, problème de PGP, c'est justement avec ses compromissions avec les États-Unis. À une époque aussi, il y avait même une petite backdoor. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ce PGP, le logiciel de Zimmermann, a toujours été gratuit, mais jamais libre. Ou en partie des fois, mais bref. Et donc du coup, on a en 1997, un Allemand, Werner Kor, qui commence GNU-PG, qui est devenu maintenant le standard le logiciel principal libre pour faire de l'OpenPGP. Sachant qu'OpenPGP est une norme, GNU-PG est un logiciel. C'est comme OpenUDC est une norme, et ensuite derrière on a des logiciels comme THTP-GPD, LUD avec un seul D, LUD avec deux D, bref. Voilà. Donc maintenant, GNU PG marche bien. Il a quasiment remplacé dans l'utilisation. Il n'y a quasiment plus personne qui utilise PGP. Bon, il y en a encore quelques-uns, notamment des, je sais pas qui. Mais je sais qu'il y a encore des gens qui l'utilisent. On va revenir donc sur qu'est-ce qu'un certificat, parce que si c'est important, il y a une question qui nous vient souvent, c'est pourquoi vous faites de l'Open PGP et pourquoi vous gérez pas l'X509? Il y a notamment donc quelqu'un, si jamais il écoute l'émission, Cédric Moreau, qui revient souvent à la charge avec ça, et je lui réponds chaque fois, c'est 109, c'est de la merde. Et je vais expliquer pourquoi c'est de la merde, à quelque part, sans vouloir dire, c'est caca. Donc les principales différences entre... Toc, toc, toc. Alors, description des principaux certificats. Voilà, c'est ce que, bon, dans la page Wikipédia, c'est moi qui l'ai écrit. Ça, j'ai écrit il y a 2 ans, ça n'a pas bougé, c'est bien. Alors, la différence totale, c'est qu'un certificat X509 ne peut contenir qu'un seul identifiant. Donc, c'est-à-dire un identifiant, c'est par exemple nom, prénom. Mais X509, le but, c'était fait pour des sociétés américaines. Donc en fait, c'était numéro de sirette américaine, tous les trucs américains. Quand tu crées ton certificat X509 pour toi personnellement, français, tu sais pas comment remplir les champs, quoi. Voilà. Et t'as plein de champs prénumérotés. Alors que déjà, OpenPGP, en fait, il y a moins de champs prédéfinis. Il y a juste un premier champ nom-prénom, en gros, on peut mettre ce qu'on veut. D'ailleurs, j'ai pris des libertés là-dedans, moi j'ai mis le pseudo. Puisque dans le champ commentaire, on a mis un nouveau truc, on a fait l'UDID 2, on verra ensuite plus tard, qui permet d'identifier les gens de façon unique, en gros, et de façon la plus internationale possible, avec nom, prénom, puisque c'est quand même une commun, mais le prénom n'est pas obligatoire. Bon bref, on verra, il y a une norme de l'UDID 2 que j'ai écrite, et qui je pense peut s'appliquer à la plus grande partie des cultures, de la planète, voilà.
Donc celle-là, elle est plus faite pour des organisations, alors que OpenPGP est plus faite pour des individus.
Exactement. Mais quoi qu'on peut faire OpenPGP pour des organisations ? Vu que c'est libre, on peut définir, tu vois, on peut... C'est, dans le champ commentaire, on met ce qu'on veut. Dans le champ, même dans tous les trois champs, on met ce qu'on veut, même dans le champ mail. Mais il n'y a que trois champs prédéfinis, mail, nom et commentaire. Et en fait, dans les trois, on met ce qu'on veut. Et c'est pas ça qui... C'est pas bloquant, voilà. Donc un certificat 9 peut contenir qu'un seul identifiant, alors qu'en fait avec un certificat OpenPGP aussi on peut mettre plusieurs identifiants, c'est-à-dire qu'on peut se mettre des alias. Voilà, on peut se faire un certificat OpenPGP pour plusieurs personnes, alors qu'avec X509, ben, on fait une organisation qui regroupe plusieurs personnes, mais c'est toujours qu'une seule identifiant. Voilà. L'identifiant ne peut être signé que par une seule autorité. Donc du coup, exit l'étoile de confiance, c'est forcément système pyramidal de confiance. Et voilà, alors qu'OpenPGP, non. Un identifiant, en plus, c'est les identifiants qui sont signés, peuvent être signés par autant d'autres certificats OpenPGP. Tous les certificats OpenPGP, quelque part, sont au même niveau. Il n'y a pas de certificat racine, de notion de certificat racine avec OpenPGP. Voilà. Donc c'est pour ça, OpenPGP c'est le seul qui permet la toile de confiance. Et bon, c'est des standards qui existent actuellement, on va pas s'amuser à inventer de nouveaux standards. Il y en a encore d'autres, des petits certificats, mais c'est naturellement que OpenPGP correspond à nos besoins pour authentifier de façon unique, et en plus pour faire des transactions, ce qu'on verra plus tard, qui consiste à signer une transaction, c'est comme des chèques en gros, je me disperse, j'aurais dû le dire plus tard. C'est comme des chèques, c'est-à-dire qu'on signe des messages. On signe « je donne tant d'argent à telle personne ouais. ». Je reviens sur... Donc oui, juste pour avoir un petit peu une petite notion, une petite image sur GNU TLS. Sur GNU TLS, il y a des petits dessins qui illustrent ce que j'ai dit, et en plus ils redisent ce que je viens de dire en français, sauf que c'est en anglais. Donc c'est gnutls.org. GNU TLS, c'est quoi ? C'est une brique qui permet de faire. C'est une brique qui permet de faire du TLS, donc à la fois du X509, mais aussi, en fait, c'est le seul logiciel qui actuellement implémente très bien la RFC 6091, qui permet de faire. Du TLS avec des certificats OpenPGP plutôt qu'avec des certificats X509. Voilà. C'est hélas pas trop utilisé, alors que les navigateurs comme Mozilla pourraient l'utiliser. Ils utilisent encore préféré. Bon, je sais plus. Hein. Peut-être qu'il y a. Je dis ça, ça a un an d'âge, donc ça a peut-être changé. Mais ils utilisaient encore d'autres couches pour faire du TLS, d'autres couches logicielles qui étaient.
Non, mais CNSS.
Voilà, CNSS. Toujours. Ils ont toujours pas. Voilà. Elle est bien documentée, mais elle est très peu usée. C'est dommage. C'est quand même une bonne couche logicielle. Mais accessoirement, pour les logiciels OpenIDC, pour le protocole OpenIDC, on n'en a pas trop besoin. Mais c'est quand même très intéressant. Et pour THTP GPD, je reviendrai tout à l'heure, qui est un projet annexe, ça peut être aussi très intéressant. La toile de confiance et pas sur Wikipédia. Alors il y a quelque chose de très important, ce qu'on va faire aujourd'hui aussi avec OpenPGP, c'est justement comme il n'y a pas d'autorité de certification, comme il faut construire la toile de confiance, il faut la construire. C'est-à-dire qu'il faut que chacun on signe des certificats des autres et qu'on se fasse signer sur notre certificat nous. Et avant de faire ça, il faut faire comme font les autorités de certification X509, il faut vérifier quand même un petit peu l'identité de la personne. Enfin, ou avoir, voilà. C'est quelque part quand on signe, c'est-à-dire qu'on donne publiquement à tout le monde sa confiance envers une personne. Ça veut dire signer un certificat. C'est-à-dire dire à tout le monde, parce que on le signe à la fois pour que les autres sachent que c'est qu'on l'a signé, je fais confiance à cette personne, quelque part. C'est à l'EPE. Alors, dans OpenPGP, le truc, c'est je fais confiance, c'est en général, c'est ça le plus en détail, c'est je fais confiance, elle est bien celle qui elle prétend être. Alors ensuite, des outils pour utiliser OpenPGP, donc qui, quelque part, il faut utiliser OpenPGP, surtout si on va développer sur OpenIDC, puisque c'est la base. Donc n'hésitez pas à commencer à signer vos emails, à envoyer des emails chiffrés, puisque OpenPGP au début c'était fait pour ça, même si on va voir qu'il y a d'autres utilisations d'OpenPGP. Le principal utilisation, c'est quand même de signer et chiffrer ses emails. Donc n'hésitez pas à le faire. Pour ça, je vous conseille deux très bons softs. Donc Clomail, qui est celui que j'utilise, qui est le fork de Silkfeed, accessoirement pour ceux qui connaissent. Donc c'est un logiciel d'un client mail qui gère assez bien OpenPGP et plus d'autres features. Sinon aussi le Thunderbird de Mozilla marche aussi. Il a aussi un plugin Anime, voilà. Un plugin qui permet de bien gérer aussi OpenPGP. Et en plus, l'avantage de ça, c'est que souvent, ils ont aussi des petites IHM pour gérer GPG. Parce que GNU PG en soi n'est qu'un outil en ligne de commande. Il y a des petites IHM accessoirement qui ont été faites par l'équipe de GNU PG, mais elles ne valent pas ensuite d'autres IHM plus compliquées, comme Seahorse sous Ubuntu, GTK. Comme Cléopatra pour KDE, il y en a des tonnes d'autres. Par exemple, sous Mac, c'est MacPG. T'as vu, je t'ai mis le lien, Stéphane Quint, qui est sous Mac. T'as installé déjà, t'avais...
Oui, c'est
OpenPGP
Tools qui
remonte. Ok, d'accord. Alors là, il faut faire des trucs là-dessus. Bien. C'est bon, j'ai fini 25 minutes.
Non, tu as fini, tu penses?
Ouais, j'ai fini. Pour le gros de OpenPGP.
Aux questions maintenant, pour approfondir. Alors, moi j'en ai aussi.
Ouais.
Alors, juste une petite remarque. Donc, parlez bien dans le micro. Donc, si vous voulez poser une question, vous venez au micro pour bien parler dans le micro. Et toi aussi, Jean-Jacques, essaie de tenir droit et de parler vers le micro. Ouais. Et t'adresser à la limite plus aux auditeurs que aux gens dans la salle.
Parce d'accord.
Que c'est eux qui vont écouter cette émission. Alors, moi, les questions que je voulais poser. Moi je connais déjà, PGP, tout ça, j'ai
ouais, mais tu signes jamais de mail.
Oui, non, mais parce que c'est pas la question. Il y a deux choses. Un, il ne faut pas créer la toile de confiance, mais au moins une toile de confiance de test, avec des clés de test, puisqu'il s'agit de tester un logiciel. Donc je pense que c'est une erreur aussi de penser. J'aimerais bien, parce que j'ai l'impression qu'on essaie trop de s'embarquer dans le dire on va créer une monnaie. Et puis non, on va tester un logiciel qui permet de créer une monnaie. Donc, on va créer des toiles de confiance, de test. Donc, pour ça, à la limite, on n'est pas obligé de faire comme si on allait vraiment démarrer la monnaie à partir de ce qui existe. Non, on teste. Donc, on peut utiliser une clé qu'on va tester. On peut donc se signer à distance. On n'est pas obligé d'être là pour faire. On peut simuler dès qu'il s'agit une partie au début. On n'est pas obligé de le faire en vrai, quoi.
Le but, c'est de créer et tester un outil et pas de le mettre en production.
Voilà, c'est pas de le mettre en production. Voilà, le mettre en production, d'ailleurs, il ne faut pas penser comme le Bitcoin, dire on va avoir une monnaie. On va créer un logiciel qui va permettre à des communautés de s'installer une monnaie d'unité universelle. Alors après, qu'elles fusionnent ou pas ces communautés, c'est un autre problème. Ça sera sans doute possible, très certainement, parce que le protocole est compatible, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, donc ça, c'était un premier point. Alors évidemment, si l'interlocuteur n'est pas là, c'est embêtant. Et le deuxième point, c'était par rapport, on va peut-être, c'était par rapport aux outils. Donc là, effectivement, on a parlé de plusieurs outils. La question qui peut se poser, à mon avis, c'est par rapport au package OpenEDC. OpenEDC, est-ce qu'il ne faut pas mettre ces outils dans le package, quoi, en fait, tout simplement? Est-ce qu'il ne faut pas au moins proposer un outil par défaut dans le package et donc de façon... On va continuer à enregistrer l'émission puisqu'on enregistre au bout d'un. Alors, quand les conditions du direct, il faudrait éviter de sortir de la salle pendant l'émission.
C'est oui, pas mal.
Assieds-toi.
Assieds-toi.
Donc, qu'est-ce que tu en penses de ces deux questions, donc?
Ouais, c'est bien, mais comme j'étais sorti aller chercher de l'eau, parce qu'on n'a pas d'assistante, on n'a pas la petite assistante qu'on peut lui faire.
Alors, la question, c'était de bien comprendre que quand on fait un outil de test et non pas un outil de production, c'est pas le but. Mmh. On essaie de mettre au point le logiciel, c'est que oui, on n'est pas obligé de faire le kiss à une partie en se voyant pour le faire, on peut le faire sur le net, puisqu'on peut faire de confiance de test. Parce qu'il s'agit de tester le logiciel. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que par rapport aux outils au fin de PGP qui sont possible ici, je pense qu'il faut, dans l'optique justement de faire une doc qui permette d'entrer, etc., de proposer des outils par défaut hein, dans le package OpenUDC, que ces outils de gestion OpenPGP soient mis par défaut, que ce soit ceux sur lesquels au moins on bâtisse un outil complet. Alors après que d'autres en utilisent d'autres, ça les regarde. Allez,
non mais alors.
Viens parler dans le micro.
J'ai une proposition là-dessus. Depuis un certain temps, j'ai regardé et il y a des librairies qui permettent en JavaScript dans le navigateur de gérer tout ce qui est OpenPGP et qui gardent les clés du côté client avec les nouvelles fonctionnalités des navigateurs. Et en fait, pour moi, je pense que c'est une pierre très importante, un élément très important, puisque ça enlève toute la difficulté technique. On peut arriver à faire des interfaces où on oublie la technique pour l'utilisateur. Du coup, le frein pour utiliser ça est réduit énormément. Donc, je ne sais pas si tu as déjà regardé ces outils-là. J'ai regardé. On peut facilement signer les clés. Mais toutes les opérations que tu fais en ligne de commande, tu peux les faire en JavaScript et dans le navigateur. Alors, je ne sais pas si... pour moi, c'est une piste très importante pour vulgariser l'outil.
Pour moi, c'est une piste annexe. En fait, là, je disais, il faut utiliser OpenPGP parce que cette conférence s'adresse à des développeurs. Et que les développeurs en soi, c'est vrai que pour monsieur tout le monde, oui, il va pas. De toute façon, je lui demande pas à monsieur tout le monde de signer ses mails et d'utiliser OpenPGP quotidiennement. Mais je demande au moins aux développeurs OpenIDC d'utiliser OpenPGP quotidiennement, oui. Ça, c'est pour moi, c'est ça le truc. C'est que si on veut rentrer dedans, déjà, il faut bien maîtriser OpenPGP et l'utiliser quasiment quotidiennement. Voilà. Sinon, ça sert à rien de venir développer dans OpenUDC. Ou alors des trucs annexes, mais des trucs autour. Mais pas... Ensuite, non, c'est une très bonne initiative, mais c'est un workaround. C'est pas de faire des trucs tout en navigateur. C'est très bien, mais il faudrait que ça vienne. Mais c'est peut-être un peu prématuré.
Oui, moi, je suis d'accord au niveau de Open, au niveau de la toile de fonction, je pense que c'est un bon outil. Après, c'est vrai que ça serait peut-être bien au niveau du protocole même de Open UDC qui est en fait qui peut être indépendant de l'outil dont on se sert pour construire la toile de confiance, voir quels sont les besoins et pourquoi on utilise cet outil-là. Enfin, quels sont les besoins au niveau du protocole même en fait. Par rapport à la toile de confiance, anonymat ou pas, chiffrage ou pas, est-ce que, enfin, c'est bon. Au niveau du protocole même de Open UDC, qui pour moi est plutôt le plus clair.
C'est simple, il faut le comprendre un petit peu, c'est tout. Enfin, c'est juste que, voilà, si on veut travailler pour, enfin, développer pour mettre, faire du code pour Open UDC, si on ne comprend pas OpenPGP, ben on peut faire que du workaround.
Alors là-dessus, je vais dire quelque chose. Et là-dessus, je vais dire quelque chose. Je comprends ta question, mais je vais quand même préciser un truc. Tu me diras si ça répond ou pas. Le fait de comprendre le principe de la monnaie libre, c'est une première étape fondamentale. C'est très bien. Maintenant, est-ce qu'il y a plein de façons d'implémenter une monnaie libre ? Oui. Quelle est la façon que fait OpenUDC ? C'est OpenPGP et une base de données distribuée qui se base dessus. Donc la question de savoir pourquoi on l'utilise, elle ne se pose plus maintenant, si tu veux.
Je suis d'accord, enfin, pour moi c'est un très bon outil, mais faire peut-être le lien, pas jamais avoir le lien entre cet outil de toile de confiance et comment on va s'en servir en fait.
Ah oui d'accord, dans la conférence qui suit. Ça viendra après la conférence. Non mais ça je tiens quand même à le préciser, parce que vous voyez bien que dans OpenUDC il y a plusieurs niveaux d'intervention, et des fois je m'énerve sur les listes ou les trucs. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui commencent à comprendre le principe de la monnaie et qui viennent poser des questions qui sont des questions sur le principe même, les principes. Bon, alors là, on ne se pose plus les questions des principes. C'est Gibard, c'est le projet de Gibard d'ailleurs, pour moi, il est très bon. Effectivement, il y a d'autres. Regardez, j'ai parlé de MonetM aussi, hein, bien sûr. Mais on ne va pas se poser ce genre de questions. On est sur OpenUDC, donc on fait les faciles recommandations. Sinon, on avancera dans le projet.
On sait qu'est-ce qu'on veut au niveau de la monnaie. Après, au niveau de l'implémentation,
c'est assez déterminé pour OpenUDC aussi, dans un certain niveau.
Il y a des parties qui sont pas
bonnes. Justement, alors, ça, il faut les éclaircir. Mais c'est déterminé. C'est-à-dire, effectivement, ce qu'on veut mettre au point et les transactions, les types de transactions, les types de données qu'on veut gérer, etc., tout ça est déterminé. Après, c'est pas fini, il y a encore des choses à fignoler, mais l'essentiel est dit, quoi, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire, le chemin, la voie, elle est tracée au second. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas remettre en cause ça, sinon on n'est plus dans le projet, on commence à se reposer des questions à l'extérieur.
Non, parce qu'il n'y en a aucun là, on est tous d'accord pour utiliser OpenUDC. OpenBGP. Par contre, quand là, je faisais ma proposition, ça ne remettait pas du tout en cause les spécifications que tu as fait, etc. C'est juste au niveau de l'implémentation pour le rendre plus accessible.
J'ai bien compris.
Comme ça fait très longtemps que j'utilise, j'ai testé l'utilisation des clés de cryptage pour signer les mails, etc. Mais lorsque pendant un an, tu es tout seul à envoyer des mails, crypter tout ça, au bout d'un moment, tu l'enlèves. Parce que, en fait, l'outil n'est mine de rien. C'est simplifié, mais pas assez pour que ça soit utilisé d'une manière généralisée. Donc là, tu es peut-être tout seul à envoyer des mails chiffrés.
Non, sûrement pas tout seul.
Non, tu fais des
choses aussi, oui.
Voilà.
Tous les clients envoyés, tous mes mails sont signés.
Voilà.
Absolument tous.
Et combien de personnes en face tu as en pourcentage qui.
Signe aussi ou qui vérifie
Qui vérifie, je ne sais pas. Qui signe aussi, très peu. Mais à chaque fois qu'une personne va signer, en général, je vais importer sa clé avec une confiance nulle. Pour ensuite pouvoir chiffrer avec une personne dont je n'ai pas du tout de...
Moi, au quotidien, on va dire, je ne sais pas, sur 100 personnes, je vais en avoir 3.
C'est sûr.
Ou 2. Voilà. Et du coup, ça tue la motivation. Parce que,
3%, c'est déjà pas nul.
Oui, non, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est... Donc, après, le pourquoi les gens ne maîtrisent pas bien cet outil, c'est parce qu'ils ne le pratiquent pas assez. Et moi, je l'ai pratiqué, j'ai suivi les tutos, etc. Étant donné que je suis, c'est un effet réseau, tu es tout seul à utiliser ces outils de cryptage, tu ne les utilises plus. Et ça redevient compliqué parce que pendant 3 ans, tu ne les as pas utilisés. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça que pour moi, je pense que ces outils-là vont être plus facilement, plus utilisés à partir du moment où, entre guillemets, ils se font oublier. Même si toi, les utilisateurs avancés continueront à comprendre le fonctionnement sous le capot, mais du coup, il y aura 90% des gens qui ne comprendront pas ce qui se passe sous le capot, mais ils pourront quand même l'utiliser. Donc c'est un élément important.
Non, tout à fait. C'est important. Je suis d'accord, c'est important. Mais pour un développeur, non, faut qu'il comprenne ce pour un développeur il faut qu'il comprenne ce sous le capot. Mais sinon. Et d'ailleurs, accessoirement, donc pour l'instant, le seul client qu'on a, c'est en ligne de commande, LUD. Si tu veux commencer à le refaire en HTML JavaScript, c'est tout à fait, tout à fait possible. Je ne peux que t'encourager.
C'est ce que je pense.
La direction, il ne faut pas non plus décourager s'ils veulent aller dans cette direction, de pousser dans cette direction. Je pense que ça peut être bien. En plus, il va poser des questions sur le fonctionnement parce qu'en le mettant au point, ça permettra de partager la connaissance. Donc je pense. Il faut au contraire encourager cette direction. Moi-même, j'avais demandé au début, et puis tu m'as dit effectivement, j'avais compris, effectivement, c'est pas absolument nécessaire pour développer.
C'est moins nature.
Mais quelque part, je crois aussi, parce que
je suis ça.
D'expérience de développement aussi, c'est vrai aussi qu'en essayant de rendre accessible un outil, on le comprend mieux. Il y a aussi ça, faut pas négliger ce point. C'est pas que pour le rendre accessible, c'est aussi pour le maîtriser en faisant un petit outil d'interaction pour pouvoir créer sa clé, qui soit sympa, etc. Qui permet de gérer sa clé, qui permet aussi de sauvegarder. Parce que moi j'ai du mal aussi avec ça, entre la clé privée et la clé publique, laquelle
là, ça
normalement ça c'est sauvegardé dans des fichiers. Et bon, mais il faudrait que l'outil qui va permettre de dire voilà ma clé privée, ma clé publique, voilà les fichiers, puis gardez-le bien. Je voudrais que ça devrait exister. Parce que ça va permettre aussi d'identifier les deux. Du coup, de bien être clair sur laquelle fait quoi. D'accord. Donc je pense que c'est bien et que si tu as envie de le faire, il faut y aller, bien sûr. Ça peut attirer d'autres développeurs qui après du coup seront intéressés pour aller chercher plus dans le détail.
Oui, d'ailleurs je suis ça d'assez près aussi, c'est clair, tu vois, donc t'as un lien là, donc tu vois c'est sur Wiki, Kylof WebPG. WebPG c'est le plugin, le dernier plugin
Firefox, c'est une extension par contre.
Non, oui, ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, peut-être à l'époque quand on vous a posé la question, c'était pas assez mature, parce que là maintenant, il n'y a plus besoin d'extension. C'est avec les capacités de stockage sur le, en local, sur, je ne sais plus comment elle s'appelle la norme, dans les browsers, que du coup là ils peuvent garder en local tes clés. Elles sont comme, on va dire, des cookies, et du coup, tu as moins cette problématique, c'est-à-dire, il y a les fichiers là, etc., tu as ton browser, tu as tes clés qui sont dedans, et du coup, voilà, ça rend les choses plus accessibles.
Il faut que j'étudie cette norme, parce que moi, j'ai quand même un petit...
J'ai mis le lien dans le pad, c'est...
Bon, il faut que j'étudie, parce que quand même, moi, j'ai un doute sur la sécurité...
J'ai regardé... Voilà, c'est...
que si une appli, si un site web arrive à accéder à des données sur ton PC, qu'est-ce qui empêche un autre site web
C'est dans la norme du browser, tu ne peux pas taper dans les fichiers comme ça, tout le monde. Il faut autoriser. C'est-à-dire, il va demander, comme autorisez-vous à accéder aux fichiers ou à vos clés. Tu dis oui ou non. Et le site peut y accéder au début ou non.
Moi, j'avais une autre question beaucoup plus liée à OpenPGP. C'est tout à l'heure, tu disais que dans ta clé, par exemple, tu as mis JBAR en tant que nom. Moi, personnellement, je vais pas. J'ai tendance à ne pas signer une clé comme ça qui n'a pas un nom correct.
Oui. Qu'on peut dans mon commentaire, vérifier. J'ai lu DID2. C'est encore mieux que juste Jean-Jacques Brouquier. Parce que dans le commentaire, j'ai en plus mon lieu de naissance et ma date de naissance. Enfin, ma coordonnée de naissance et ma date de naissance. C'est pour ça qu'ensuite je. Tu vois, parce que justement, et l'avantage, ça permet de signer en plus ce Jean-Jacques Brouquier plutôt qu'un autre. Parce que Jean-Jacques Brouquier, je crois. Bon, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais je crois pas que je suis seul. Bah, d'ailleurs, je sais que je suis pas le seul. Heureusement, comme ça, sur Internet, je tombe sur moi en général, quand on tombe sur moi, c'est que ce n'est pas très bien.
Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de questions sur pure open.
Oui, moi j'en ai une autre par rapport à ce lien-là aussi de visibilité. Non seulement, bon, il y a l'outil de gestion de clé, c'est une chose, mais il y a aussi l'outil, d'ailleurs, on a vu tout à l'heure en graphique, concernant la toile de confiance elle-même. On l'a vu tout à l'heure sous forme effectivement de toile, des individus reliés entre eux. Bon. Et ça aujourd'hui on ne l'a pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une toile de confiance ou enfin des clés signées qui apparaissent uniquement sous votre texte. Bon, mais là aussi, ça peut être intéressant, pourquoi pas, d'avoir des outils qui donnent une sorte de réalité à la toile de confiance qui permettent aux utilisateurs de la visualiser. Au moins de visualiser la leur, c'est-à-dire c'est eux-mêmes et les gens qui vont eux-mêmes signer, enfin, c'est pas autre chose. Voilà, donc je pense que ça peut être intéressant aussi pour en comprendre le principe et peut-être aussi pour commencer à réfléchir sur un aspect qui sera sans doute intéressant, c'est dans quelle mesure un utilisateur signé est vraiment signé. Parce que si trois rigolos s'amusent à signer quelqu'un qui n'existe pas, ou cinq, si on dit que cinq suffisent à signer quelqu'un, ce n'est pas un critère suffisant. On peut donner des critères qui soient des normes de densité dans le graphe, c'est-à-dire que on doit demander qu'une personne soit signée par des gens qui ne sont pas trop éloignés de certaines personnes. En tout cas, hein, qu'en moyenne, il y a des poids de distance entre les gens qui sont respectés. Enfin, que personne ne soit plus de trois d'un autre, ce genre de choses qui, du coup, empêchent de faire des manipulations de ce type. Qui, non seulement, sont difficiles parce que tout le monde peut contrôler tout le monde, mais ça rajouterait un critère de validation. Il ne suffit pas de signer pour signer, c'est ça. Il y a aussi une notion de distance qui permettent de valider ça. Or, cette analyse-là, elle sera d'autant plus favorisée, aidée, qu'on commencera à avoir la toile sous forme graphique, sous forme de graphe. Parce qu'on rentre, la toile de confiance, c'est dans la théorie des graphes, en fait. On est bien là-dedans. Hein.
Ouais, je ne sais pas si on continue sur OpenPGP ou la partie qui est intéressante pour moi, c'est la modification de la base de données. Alors, tu as rajouté des champs, et c'est cette partie-là, je trouve, qui est une pierre angulaire du.
Ouais, c'est l'avant-dernière partie, tu vois, dans l'empagne.
D'accord.
Pour l'instant, on en est là aussi. La table structure. D'accord.
Ouais. C'est l'avant-dernière pour ça. On le verra tout à l'heure. Bien sûr que c'est important.
D'autres questions sur ce point de BGP, est-ce qu'il y a des points que pour rentrer dans la mécanique, il y a des points que vous voulez éclaircir par exemple, dans les deux outils qui existent, l'UG et l'UG, les deux gèrent quoi exactement par rapport au BGP? Les deux s'en servent.
Ah oui, les deux s'en servent. Alors c'est simple, LUD c'est un outil de commande, quoi. C'est juste un outil de commande qui fait appel à GPG, donc à l'autre outil de commande GPG, c'est l'image, voilà, il envoie, il fait plein de commandes GPG avec plein d'options que de la multitude, quoi, ils font tout plus bien comme il faut. Mais bon, c'est toujours en ligne de commande. Donc c'est vrai que ça, c'est. Bon. Je m'attarderai pas. Moi personnellement, je ne suis pas du tout IHM, je perdrai plus la même temps à faire des IHM que je pense. Donc un jour il faudra faire une IHM, par exemple une IHM sous forme de page web, c'est très bien aussi. LUD, qui est HTTPD, parce qu'en fait c'est, bon, on verra, c'est à peu près la même chose. Bah, il est linké avec GPGME, qui est la librairie C pour faire de GPG. Et pareil, il vérifie les signatures, il chiffre. Voilà.
Autre chose ? Ça. Tout le monde a compris l'histoire de DAI2, qu'il faut le créer, que c'est associé à la clé, tout ça, etc. Donc c'est bon ça. Donc tout est clair.
Le DAI2, j'ai prévu d'en reparler dans justement l'enregistration du mécanisme.
Ouais, on va en parler d'accord. Bon, on arrête là cette première partie, ça va permettre de faire une pause, de nettoyer tout le truc. C'est bon pour vous. Super, on arrête là alors justement pour cette première partie. Putain, je vais mettre sur ma souris donc.